Annie Ernaux.
Pourquoi j'arrive à retrouver des sons, à retrouver des images, les plus lointaines aux plus proches, je n'en sais rien. Ce qui compte, c'est toujours le projet. C'est ça qui entraîne la fonction mémorielle, je crois, aussi beaucoup. C'est ce projet-là, le sentiment que tout va disparaître.
Ça peut pas faire de mal.
Tout s'oublie, on le constate, je vais dire d'une manière générale. Ce qui s'est passé au début des années 2000 nous paraît tellement lointain déjà. C'est cette peur de la perte mais pas seulement de moi, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vécu ensemble et séparément qui motive mon écriture.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
J'ai voulu l'oublier aussi, cette fille. L'oublier vraiment. C'est-à-dire ne plus avoir envie d'écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle. Son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n'y suis jamais parvenue. Toujours des phrases dans mon journal, des allusions à la fille de S, la fille de 58. Depuis 20 ans, je note 58 dans mes projets de livres. C'est le texte toujours manquant, toujours remis, le trou inqualifiable. Le temps devant moi se raccourcit. Il y aura forcément un dernier livre, comme il y a un dernier amant, un dernier printemps, mais aucun signe pour le savoir. L'idée que je pourrais mourir, sans avoir écrit sur celle que très tôt j'ai nommée la fille de 58, me hante. Un jour, il n'y aura plus personne pour se souvenir. Ce qui a été vécu par cette fille, nul autre, restera inexpliqué, vécu pour rien. Que je sois la seule à me rappeler, comme je le crois, m'enchante, comme d'un pouvoir souverain, une supériorité définitive sur eux, les autres de l'été 58, qui m'a été léguée par la honte de mes désirs, de mes rêves insensés dans les rues de Rouen, du sang tari à 18 ans comme celui d'une vieille. La grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n'importe quelle autre. Cette mémoire, qui est en somme le don spécial de la honte.
La honte, elle vient de la conscience, de son appartenance à un monde qui est infériorisé, qui est dominé. Il y a le monde populaire qui est celui de ma famille, il y a le monde de l'école, il y a le monde de ce monde de la petite ville avec ses distinctions sociales très fortes. La honte n'est pas une pensée. La honte n'est pas quelque chose qu'on appréhende facilement, c'est un mode de vie.
Ce souvenir douloureux de l'été 58 est tiré d'un magnifique récit paru au printemps dernier chez Gallimard. Il s'agit de Mémoires de fille, signé de la plume d'une grande femme de lettres contemporaine, Annie Ernaux. Née en 1940 dans un village normand, l'auteur est agrégée de lettres modernes et a consacré sa carrière à l'enseignement. Depuis son premier roman, Les armoires vides, paru en 1974, Annie Ernaux n'a cessé de porter à l'écriture la complexité de l'existence, traversant sa propre vie pour tracer le roman d'une génération, celle des enfants de la guerre qui se passionneront pour l'existentialisme des années 50 et la libération des mœurs 20 ans plus tard. En 1984, elle reçoit le prix Renaudot pour son quatrième roman, La Place, qui rend hommage à son père, modeste cafetier de campagne. En 2008, elle publie un roman bouleversant, Les années, un récit écrit sur le fil, entre mémoire individuelle et mémoire collective. Plus qu'un projet autobiographique, son écriture dessine les contours des époques passées où s'enracinent nos existences laborieuses. Car pour Annie Ernaux, il s'agit surtout de, je cite, « se débrouiller avec les choses de la vie ». Pour évoquer ce destin féminin, j'ai l'honneur de recevoir une autre femme au talent exceptionnel, une camarade de la Comédie française, magnifique interprète des plus grands auteurs de Racine à Tchekhov. Vous jouez d'ailleurs en ce moment un très beau Vania, mis en scène par
Julie Deliquet.
Jusqu'à demain au Théâtre du Vieux Colombier. Bonsoir Dominique Blanc.
Bonsoir.
Vous avez une tendresse particulière pour l'univers d'Annie Ernaux. Vous avez admirablement incarné il y a quelques années au cinéma cette femme rongée par la jalousie, l'héroïne du roman L'Occupation, adapté par Pierre Trévidic dans son film L'Autre.
Je la connais ?
Non, non, tu la connais pas.
Et alors, elle est comment ? Quel âge elle a ?
Ce soir, en votre compagnie, nous allons mesurer toute la violence qui habite l'œuvre d'Annie Ernaux, celle des combats d'une femme engagée de tout son être pour accéder à l'émancipation, à l'indépendance, d'une femme comme vous, à la fois singulière et plurielle. Nous allons poursuivre avec vous, si vous le voulez bien, Dominique Blanc. Après l'été 58, vous nous faites découvrir un autre grand traumatisme dans la vie d'Annie Ernaux, dans « Mémoire de fille ». L'écrivain relate le souvenir humiliant de son dépucelage alors qu'elle est monitrice dans une colonie de vacances. Dans son premier roman, Les armoires vides, publié en 1974, elle évoque un autre sujet de honte, celle de ses origines sociales. Elle qui fut fille d'ouvrier et petit commerçant, mais surtout, pour elle qui fut toujours la meilleure élève de sa classe, la culpabilité d'avoir succombé au péché de la chair.
Qu'est-ce que tu fais là dans cette eau jaune ?
C'est de la moutarde.
Ça fait la peau douce, la moutarde ?
Non, c'est pas pour ça.
T'es enceinte ?
Bernard veut pas que je le garde. Il veut pas jurer quelque chose qu'il pourra peut-être pas tenir.
C'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser de ton môme.
Voici la première page du roman, d'une grande violence, qui marque l'entrée en littérature d'Annie Ernaux à une époque qui connaîtra bientôt les premières conquêtes du féminisme, concernant précisément la question de l'avortement.
Toutes les heures, je fais des ciseaux, de la bicyclette ou les pieds au mur, pour accélérer. Une chaleur bizarre s'étale aussitôt comme une fleur quelque part au bas du ventre, violacée, pourrie. Pas douloureuse. Juste avant la douleur, un déferlement de tous côtés qui vient cogner contre les hanches et mourir dans le haut des cuisses. Presque du plaisir. Ça vous chauffera une minute, juste le temps d'enfoncer une petite sonde rouge, toute recroquevillée, sortie de l'eau bouillante. Elle va se prêter, vous verrez. J'étais sur la table. Je ne voyais entre mes jambes que ses cheveux gris et le serpent rouge brandi au bout d'une pince. Il a disparu. Atroce. J'ai engueulé la vieille, qui bourrait de watts pour faire tenir. Il ne faut pas toucher ton katsu, tu l'abîmerais. Crocheté, bousillé, colmaté, je me demande s'il pourra jamais resservir. Après, elle m'a fait boire du café. Elle n'arrêtait pas de parler. Faut beaucoup marcher, oui, aller à vos cours, sauf si vous perdez de l'eau. Au début, pas facile de marcher avec tout ce coton et ce tuyau qui ferraille le ventre. Descendre l'escalier, un pied après l'autre. Une fois dans la rue, j'ai été étourdie par les gens, le soleil, les voitures. Je ne sentais rien. Je suis rentrée à la cité. Vous aurez des contractions. Depuis hier, j'attends. Levée autour de mon ventre, à guetter les signes. Qu'est-ce que c'est, au juste ? Je sais seulement que ça meurt petit à petit, ça s'éteint et que ça part. C'est tout. La tête à plat dans l'odeur de la couverture, le soleil qui me cuit des genoux à la taille, une marée tiède à l'intérieur, pas la moindre crispation en surface, tout se passe dans les plis et les replis à des kilomètres. Sans rapport avec les planches anatomiques. Je resterai bien jusqu'au soir, tout le temps, dans cette vague posture de yoga. Le soleil traverserait la peau, décomposerait les chairs et les cartilages. Rien à espérer, ça ne partira pas comme ça. Ne plus accélérer, retirer mes jambes du mur. Travailler un auteur au programme, peut-être. Victor Hugo ou Peggy, quel écœurement. Il n'y a rien pour moi là-dedans sur ma situation. Pas un passage pour décrire ce que je sens maintenant, m'aider à passer mes seuls moments. Il y a bien des prières pour toutes les occasions, les naissances, les mariages, l'agonie. On devrait trouver des morceaux choisis sur tout. Sur une fille de 20 ans, qui est allée chez la faiseuse d'anges, qui en sort. Ce qu'elle pense, en marchant, en se jetant sur son lit. Je lirai et je relirai. Les bouquins sont muets là-dessus. Les bouquins me soulèvent le cœur. Un élancement, le premier, zigzag, éclate en point mou. Un beau feu d'artifice à l'intérieur. Je ne jouirai peut-être plus jamais si tout se déglingue à l'intérieur. Le châtiment, s'il me voyait. Tu finiras mal. Quand l'ont-ils prononcé pour la première fois, les vieux, leurs vieilles prédictions ? Il y a un mois, j'ai failli leur lancer à la figure que j'étais enceinte.
pour voir la catastrophe, les voir virer au bleu, se convulser, les vieux masques de la tragédie permanente, hurler, hystérique, et moi crier de joie, de rage, qu'ils ne l'avaient pas volé, que c'était à cause d'eux que je l'avais fait. Eux, moches, minables, technos. Je n'ai rien pu dire. Ces choses-là, je n'oserais jamais les leur dire. Ils ne se sont jamais doutés. Ils ont tout fait pour moi. Le châtiment, la correction par personne interposée, embarquée par une petite sonde rouge. 20 ans pour en arriver là. La faute de personne. Moi toute seule. Moi d'un bout à l'autre. Qui ? D'abord la fille de l'épicier Lesure. Puis la première de la classe, tout le temps. Et la dadaise en soquette du dimanche, l'étudiante boursière. Moi, le manteau rouille que j'ai porté 3 ans. Les livres. Celui-là, est-ce que tu l'as ? L'herbe écrasée de la kermesse en juillet, la main douce, il ne faut pas. Des gens partout, titubants, gesticulateurs. Ils s'avancent, violacés, les mains pendantes. Il en sort de tous les côtés. Les vicieux, toujours la main quelque part. Ceux qui achètent du cornet de bif et le font marquer dans le cahier. Ils ont toujours su que je les méprisais. La fille à l'usure, elle pourrait servir des patates. Ils la tiennent, leur vengeance. Secrétaire, dactylo, c'est du connu. Les filles aux mains blanches, aux ongles rouges, un bras fierotte. Étudiante, c'est un peu spécial. Étudier quoi ? Les lettres ? Le noir ? Le brouillard ? Ils s'arrêtent, paumés, heureusement. De toute façon, les vieux ne sauraient pas leur expliquer. Harponner, ils l'apprendront. Ils iront bavacher dans l'épicerie avec des yeux allumés. Il y aura la queue derrière le comptoir, je les connais. Tous les clients plantés sur le pavé crevassés. Depuis l'enfance jusqu'à la fac, je les ai vus. Incrustés au milieu de l'épicerie. Affalés sur les chaises du café. Vieux décors délavés. Bavards. Toujours à l'affût. Ils me regardaient en train de mettre ma chemise. De me débarbouiller dans la cuvette de la cuisine. De faire mes devoirs sur le coin de la table. Ils me posaient des questions. « T'es belle comme un chou, Ninise. Où c'est que t'as eu ta robe ? Qu'est-ce que tu feras plus tard ? Bistrotte aussi ?» S'ils avaient pu, ils m'auraient malaxé, bouffé, les gagas du café quand j'étais gosse. Si je n'avais pas été la fille Lesure, l'épicerie café Lesure, si je n'avais pas tout détesté, à partir d'un moment. Les remords qui viennent, je ne pouvais rien souffrir. Expliquer pourquoi je me cloître dans une piaule de la cité avec la peur de crever, de ce qui va arriver, voir clair, raconter entre 2 contractions, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas née avec la haine. Je ne les ai pas toujours détestés, mes parents, les clients, la boutique. Les autres, les cultivés, les profs, les convenables, je les déteste aussi maintenant. J'en ai plein le ventre. À vomir sur eux, sur tout le monde, la culture, tout ce que j'ai appris. Baiser de tous les côtés.
Regarde, il est là. Je te laisse ?
Non.
Surtout pas. Tu vas lui dire bonjour ?
Non, j'ose pas. Tu veux me parler, il va venir.
Peut-être qu'il ose pas.
Regarde, il fait semblant de pas me voir, ce salaud. C'était super quand il m'embrassait. Je savais même plus ce que je faisais, je savais même plus où j'étais. Puis après, quand c'était fini, il m'a dit thanks a lot. Tu sais ce que je lui ai répondu, non ? Tu vois, tu rigoles, mais c'est pas marrant, tu vois. Je lui ai répondu, y a pas de quoi, c'est gratuit. Il a compris ? Je pense. En tout cas, j'espère.
Est-ce que vous pouvez me choisir un disque ? Qu'on écoute ensemble, là.
Annie Ernaux.
Vous voyez, il y en a beaucoup.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Oui, il y a Marianne Faithfull.
Ah oui. Ouais.
Vous voulez qu'on écoute
si vous voulez.
Marianne Faithfull.
Thinking of a world and the light of the sun and all the many lives that were ever begun. Ever begun. Our little world turning in the blue. As each day goes, there's another one new. Another one new. How many worlds will we ever see? And how many people can we ever be? if we wake up.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Annie Ernaux évoque la condition féminine dans un autre roman bouleversant, La femme gelée, publié en 1981. Grande lectrice du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, l'auteur y dénonce les désillusions conjugales et l'inégalité homme-femme au quotidien. Mais avant d'aborder les années sombres, redécouvrons la narratrice à l'âge des grandes espérances. Dans le passage suivant, Annie Ernaux se décrit avec beaucoup d'humour en adolescente transie d'amour. Commencer l'histoire chaotique, la bonne aventure au gai, pas si bonne. J'en sortirai cabossée, humiliation et révolte. Je suis allée vers les garçons comme on part en voyage, avec peur et curiosité. Je ne les connaissais pas. Je les avais laissés en train de me jeter des marrons au coin d'une rue en été et des boules de neige à la sortie de l'école en hiver, ou de nous crier des injures de l'autre côté du trottoir, et je répondais « bande d'idiots » ou de « cons » suivant les circonstances, la présence ou non de témoins adultes. Des êtres agités, un peu ridicules, il avait fallu toute la grâce d'un après-midi de patins à roulettes pour en transfigurer un. Il devait avoir changé autant que moi. J'allais vers eux avec mon petit bagage, des conversations de filles, des romans, des conseils de l'écho de la mode, des chansons, quelques poèmes de Musset et une overdose de rêve. Bovary, ma grande sœur. Et tout au fond, caché, comme pas convenable, le désir d'un plaisir dont j'avais trouvé seul le chemin. Bien sûr qu'elle était mystère pour moi, l'autre moitié du monde, mais j'avais la foi, ce serait une fête. L'idée d'inégalité entre les garçons et moi, de différence autre que physique, je ne la connaissais pas vraiment, pour ne l'avoir jamais vécue. Ça a été une catastrophe. Elle ne démarrait pas, la fête. Une grande fille, vêtue solide, mais guère « suivez-moi jeune homme », des cheveux raides rituellement permanentés au mois de mai depuis la première communion, en langage d'homme, ça s'appelle un boudin. Des tas de filles savent s'arranger d'instinct, pas moi. Dimanche après-midi, de plus en plus gris, toujours à cracher sur les suiveurs avec ma copine Brigitte. « Tiens, ça va les belles pépées ?» Inutile. L'admiration des ploucs compte pour rien. Le plus naturellement du monde, je les ignore, avec autant d'injustice que m'ignorent des types qui, j'en suis sûr, me plairaient. Mais où et comment rencontrer des garçons? Les surbooms, mais qui m'inviteraient? Seules les filles de dentistes, gros commerçants et ingénieurs en font, les anciennes chochottes, ce ne sont pas mes amis. On ne se mélange pas dans une petite ville de 8000 habitants. Le bal du samedi soir, tu veux rire? Rien que des bonnes et des filles d'usine. Connais-je un frère? Il me sortirait, il aurait des copains, toutes ces filles qui ramènent toujours leurs frères sur le tapis. Il vient d'avoir son bac, il vient en permission, il dit que les scooters c'est de la merde. Le frère Dieu. Dommage pour moi. Pas facile à entreprendre le voyage quelquefois. Reste le hasard. Il n'a pas 36 formes. Pour une belle drague, ça a été une belle drague. Il connaissait son rôle à merveille. Un peu trop pressé, peut-être. Grand, bronzé comme dans les réclames ambre solaire, la voix bien timbrée et chaude, genre feuilleton. Il a dit quelque chose de compliqué en ajoutant « c'est de Racine, je crois ». Et je ne pouvais pas savoir s'il se fichait de nous. Je ne connaissais que les plaideurs. Brigitte feuilletait ses petits journaux et je mangeais des pêches au bord d'une prairie, juste à la sortie de la ville. Racine. C'était juste avant qu'il couche sa Vespa sur les graviers de la route et vienne s'asseoir nonchalamment, les mains autour des genoux, jouant avec ses lunettes noires, parlant avec aisance. Des choses bien tournées, rien à voir avec les « je vous ai déjà vu quelque part », du bien ficelé, tout à fait comme dans les films, la musique en moins. Pourtant, ce fut affreux. Jamais je n'avais été si bouleversée. Mes mains tremblaient pour éplucher la pêche. Du jus gouttait le long de mon poignet. Une honte affolée. Seul, j'aurais fui. Je le haïssais qu'il parle et qu'on ne sache pas vraiment quoi lui répondre, sauf des « oui, non, ça dépend, 14 ans, en troisième, je préfère Gérard Philippe, Béco en chanteur. »
Oh là 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 là, je suis fatigué, je suis épuisé et rinté-prisé, je suis condamné à perpétuité, à taper toute la journée.
Il nous guettait derrière ses lunettes noires. Il était en short, sans chemise. Je voyais ses muscles, sa peau. Un beau type. C'était effrayant. J'ai quitté l'enfance à ce moment-là. Dans la honte de ce regard posé, moitié sur moi, moitié sur mon ami, ce baratin indifférencié destiné à l'une aussi bien qu'à l'autre. S'arrêter là, faire croire que le jeu me faisait horreur. Faux, puisque je suis resté. Délicieux, après tout, d'être observé derrière des lunettes noires. Peu à peu, je me persuade qu'elle ressemble à l'aventure, cette rencontre. Un type intéressant, 23 ans, chimiste, il vient de dire. J'ose même lui demander où il habite. Pourtant, malgré mon habileté, notre dragueur de vacances n'a jamais pu décoller les sœurs siamoises qu'on formait, par peur, par jalousie, plus encore, pour une balade en Vespa, chacune son tour. Il nous a dit « Ciao, à demain !» Ciao, un mot nouveau, ça nous a fait de l'impression. Alors, pour la première fois, je me suis livré à cette étrange conversation sur les garçons et les sentiments. « T'as vu, il est chimiste. T'as vu, il a 23 ans, je ne lui aurais pas donné. » Moi non plus. Rire. On lui voyait les poils du ventre, re-rire. Oh, qu'est-ce qu'il en a ? L'obscénité ne nous a pas sauvés. Un type drôlement bien, il doit avoir toutes les filles qu'il veut. Flatté qu'il nous ait choisis. Il y en a tellement de mieux que nous. Murmure d'esclaves, encens élevé vers le Dieu. Rien qu'en parlant, j'en devenais amoureuse. Je prenais des résolutions pour demain, perdre cette agressivité qui avait dû le défriser un peu. On débattait de savoir qui irait la première sur la Vespa. Quelle aventure ! Plus tard, j'ai 20 ans, dans la lumière là-bas de la Seine, Don Juan, alpaque tour à tour, Mathurine et Charlotte, je suis fasciné, j'ai mal au cœur. Pas aussi niaise ni aussi pecnaude, aussi roulée, oui. Le lendemain, j'ai noué mes cheveux en queue de cheval, comme sur la couverture du magazine Intimité. On a beau revenir aussi les jours suivants, jusqu'à ce que les vacances de Brigitte soient finies, il n'a pas reparu.
Ce qui compte pour moi, c'est quand même tout ce qui fait interrogation, c'est-à-dire des choses qui sont passées, qui sont vécues, mais qui ne sont pas saisies dans leur réalité. Elles sont vécues, mais elles ne sont pas réelles, vous voyez ? C'est la différence. Et donc, c'est l'écriture qui va les déployer, les rendre réelles, et l'écriture va être aussi une formidable machine, parce que quand on écrit pas seulement l'expérience vécue, on écrit bien d'autres choses en même temps. Les connexions se font avec plein de choses, aussi bien l'actualité de ce qui se passe maintenant, etc. Donc c'est aussi, si vous voulez, c'est ce que j'ai mis en tête de l'événement. Mon double vœu, c'est une phrase de Lyris, mon double vœu, que l'événement devienne écrit et que l'écrit soit événement.
Retrouvons désormais la femme mariée, devenue mère de famille. Vous qui incarnez à merveille des rôles forts, Dominique Blanc, voici une voix qui devrait vous plaire, celle d'une femme en colère, qui ose écrire tout haut ce qui ne se dit pas. Une jeune mère qui lutte contre les pièges du quotidien pour reconquérir sa liberté. C'est pendant ses études de lettres en 1963 qu'Annie Ernaux fait la connaissance de son futur mari, Philippe Ernaux, dont elle gardera le nom, même après leur séparation 20 ans plus tard.
C'est aussi un conte de fées. Alice dormait quand le rayon légendaire vint la chercher au plus profond du sommeil. Le rayon la conduisit par des chemins étranges, dans des palais merveilleux. L'aspirateur balayait le tapis volant des mille et une nuits.
Si son mari la franchit du milieu ouvrier et lui fait accéder à la bourgeoisie, elle ne lui pardonnera jamais leurs premières années de mariage, où elle vit comme une recluse, femme au foyer, dans une petite ville de Savoie.
Mettant la table, étalant des nappes opalines et dévidant tout à coup un torchon de cuisine de 100 mètres.
C'est là que s'effondrent ses idéaux féministes et les promesses d'égalité qu'elle avait retenues de sa lecture de Simone de Beauvoir.
Mais elle ne quitta pas son rêve. Elle était toujours au salon des arts ménagers.
Nous voici quelques pages plus loin dans La femme gelée. La vie domestique et l'enfant, surnommé le Bicou, ne laissent aucun répit à la jeune femme qui se fixe pour objectif la préparation du CAPES.
Je déteste Annecy. C'est là que je me suis enlisée, que j'ai vécu jour après jour la différence entre lui et moi, coulée dans un univers de femmes rétrécies, bourrée jusqu'à la gueule de minuscules soucis, de solitude. Je suis devenue la gardienne du foyer, la préposée à la subsistance des êtres et à l'entretien des choses. Annecy, le fin du fin de l'apprentissage du rôle. Des années bien nettes, sans une grand-mère pour garder l'enfant. Des parents qui vous soulagent de la tambouille de temps en temps par des invitations. Moi, rien. du dépouillé, un mari, un bébé, un F3, de quoi découvrir la différence à l'état pur. Les mots « maison », « nourriture », « éducation », « travail » n'ont plus le même sens pour lui et pour moi. Je me suis mise à voir sous ces mots rien que des choses lourdes, obsédantes, dont je ne me débarrassais que quelques jours, ou mieux quelques semaines par an. Et la liberté, qu'est-ce que ça s'est mis à vouloir dire ? Il y a eu le premier matin, celui où, à 8 heures, j'ai été seule dans le F3, avec le bicou en train de pleurer. La table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit déjeuner, le lit défait, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne jamais être concernée par ce refrain. Jusqu'ici, nous avions vécu de longs moments ensemble dans la journée. Il n'épluchait pas les patates, mais il était là. Les patates se faisaient plus gaies. Je regarde les bols, le cendrier plein. Quel silence à l'intérieur quand le bicou cesse de chanter. Je me vois dans la glace au-dessus du lavabo sale. 25 ans. Comment avais-je pu penser que c'était ça, la plénitude ? Le minimum. Rien que le minimum. Je ne me laisserai pas avoir. Coup de lavette sur la table, rabattre les couvertures, donner à manger au bébé, le laver. Surtout pas le balai, encore moins le chiffon à poussière, tout ce qu'il me reste peut-être du deuxième sexe, le récit d'une lutte inepte et perdue d'avance contre la poussière. Farouche, je rouvre mes bouquins, sans oser examiner mes chances de succès, sans penser au temps si proche où le bicou se traînera partout à quatre pattes, tripotant, fouinant et ne dormira plus qu'à la sieste. Je me plonge dans la phonétique française, je psalmodie les paradigmes avec la ferveur de certaines gens qui récitent des neuvaines pour un vœu extraordinaire à exaucer. Je n'ai pas tenu longtemps. Dès le premier jour, lorsqu'il est rentré, « Mais rien n'est prêt, il est midi 20, il faut que tu t'organises mieux que ça. Je travaille, moi, tu comprends, maintenant ce n'est plus la même vie. » Est-ce que c'est la même vie pour moi ? Impossible de suivre des cours, le bicou, la bouffe, etc. Un torchon qui brûle de l'espèce la plus ordinaire. Je ne l'excuse pas. Je ne veux pas me sentir coupable de ne pas l'avoir accueilli, en souriant, les casseroles au chaud et le bébé en merdeur escamoté. Quand je travaillerai au dehors, il verra ses privilèges qu'il réclamait. Bon, à midi, ciao, à ce soir, la solitude. Pas celle des 18 ans, ni celle de la chambre d'hôtel d'où il venait de sortir, en Italie, à Rouen. Une solitude de pièces vides, en compagnie d'un enfant qui ne parle pas encore, avec comme but des tâches minuscules sans lien entre elles. Je ne m'y habituais pas. Comme si j'étais d'un seul coup sur le carreau. Je me suis mise à vivre dans un autre temps. Fini les heures suspendues, molles et douces à la terrasse des cafés, le Montaigne en octobre. Les heures oubliées du livre poursuivies jusqu'au dernier chapitre, des discussions entre copains. Mort pour moi le rythme de l'enfance et des années d'avant, avec les moments pleins et tendus dans un travail. Je n'ai plus connu qu'un temps uniformément encombré d'occupations hétéroclites. Le linge à trier pour la laverie, un bouton de chemise à recoudre, rendez-vous chez le pédiatre, il n'y a plus de sucre. L'inventaire qui n'a jamais ému ni fait rire personne. Sisyphe fait son rocher qu'il remonte sans cesse. Ça au moins, quelle gueule! Un homme sur une montagne qui se découpe dans le ciel. Une femme, dans sa cuisine, jetant 365 fois par an du beurre dans la poêle. Ni beau, ni absurde. La vie, Julie. Et puis quoi ? C'est que tu ne sais pas t'organiser. Organiser, le beau verbe à l'usage des femmes. Tous les magazines regorgent de conseils. Gagnez du temps, faites ci et ça. Ma belle-mère, si j'étais vous pour aller plus vite ? Des trucs en réalité pour se farcir le plus de boulot possible en un minimum de temps. Sans douleur, ni déprime, parce que ça gênerait les autres autour. Ça ne ressemble pas beaucoup à des libertés qui s'échangent. Depuis le début du mariage, j'ai l'impression de courir après une égalité qui m'échappe tout le temps. Mon dogme, c'est plutôt la vitesse, le galop ménager, pour dégager une heure dans la matinée. Pure illusion souvent, surtout foncer vers la grande trouée de la journée. Le temps personnel enfin retrouvé mais toujours menacé, la sieste de mon fils. 2 années, à la fleur de l'âge, toute la liberté de ma vie s'est résumée dans le suspense d'un sommeil d'enfant l'après-midi. 2 heures pour me ruer dans la préparation du CAPES. Le sursis d'un temps fragile, empoisonné par la crainte d'un réveil prématuré.
J'ai besoin d'un conseil. Je veux tricoter un chandail, un pullover, une blouse. Pas d'hésitation. J'écris aux filatures de la Redoute à Roubaix. On y trouve les plus jolies laines et les prix les plus bas. Échantillons et catalogues franco sur demande.
Quelques mois plus tard, la jeune femme décroche enfin son concours et accède à une vie professionnelle à la hauteur de ses ambitions. Mais une nouvelle épreuve l'attend en ce mois de juin 1967. 2 mois après avoir été brillamment reçue au CAPES, Annie Ernaux perd brutalement son père qui succombe à une attaque. Dans son 4e roman, La Place, salué par le prix Renaudot en 1984, l'auteur rend hommage à cet ancien ouvrier reconverti dans un petit commerce de campagne. Fier de sa fille, qui a toujours été la première de sa classe, le père gardait dans son portefeuille la coupure du journal où le nom d'Annie figurait parmi les reçus à l'école normale d'instituteurs. Mais l'incompréhension peu à peu s'était installée entre les deux êtres pour qui le mot « culture » n'avait plus le même sens. L'amour des livres pour Annie, le travail de la terre pour le père, ou comment, peu à peu, s'est creusée une différence de classe sociale. Voici le récit de la mort du père, aussi modeste que l'a été toute sa vie. C'était un dimanche, au début de l'après-midi. Ma mère est apparue dans le haut de l'escalier. Elle se tamponnait les yeux avec la serviette de table qu'elle avait dû emporter avec elle en montant dans la chambre après le déjeuner. Elle a dit d'une voix neutre « C'est fini ». Je ne me souviens pas des minutes qui ont suivi. Je revois seulement les yeux de mon père fixant quelque chose derrière moi, loin, et ses lèvres retroussées au-dessus des gencives. Je crois avoir demandé à ma mère de lui fermer les yeux. Autour du lit, il y avait aussi la sœur de ma mère et son mari. Ils se sont proposés pour aider à la toilette, au rasage, parce qu'il fallait se dépêcher avant que le corps ne se raidisse. Ma mère a pensé qu'on pourrait le revêtir du costume qu'il avait traîné pour mon mariage 3 ans avant. Toute cette scène se déroulait très simplement, sans cris ni sanglots. Ma mère avait seulement les yeux rouges et un rictus continuel. Les gestes s'accomplissaient tranquillement, sans désordre, avec des paroles ordinaires. Mon oncle et ma tante répétaient « Il a vraiment fait vite » ou « Qu'il a changé ». Ma mère s'adressait à mon père comme s'il était encore vivant ou habité par une forme spéciale de vie, semblable à celle des nouveau-nés. Plusieurs fois, elle l'a appelé « Mon pauvre petit père » avec affection. Après le rasage, mon oncle a tiré le corps, la tenue levée pour qu'on lui enlève la chemise qu'il portait ces derniers jours et l'a remplacée par une propre. La tête retombée en avant, sur la poitrine nue, couverte de marbrure. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le sexe de mon père. Ma mère l'a dissimulé rapidement avec les pans de la chemise propre en riant un peu. « Cache ta misère, mon pauvre homme !» La toilette finie, on a joint les mains de mon père autour d'un chapelet. Je ne sais plus si c'est ma mère ou ma tante qui a dit « Il est plus gentil comme ça, c'est-à-dire net, convenable. » J'ai fermé les persiennes et levé mon fils couché pour sa sieste dans la chambre à côté. Grand-père fait dodo. Le repas d'inhumation s'est tenu dans le café sur les tables mises bout à bout. Après un début silencieux, les conversations se sont mises en train. Le frère de mon père, assez loin de moi, s'est penché pour me voir et me lancer « Te rappelles-tu quand ton père te conduisait sur son vélo à l'école ?» Il avait la même voix que mon père. Plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier poste, il faudra que j'explique tout ça. Je voulais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie, et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Parce que ces façons de vivre étaient à nous un bonheur même. Mais aussi les barrières humiliantes de notre condition, conscience que ce n'est pas assez bien chez nous. Je voudrais dire à la fois le bonheur et l'aliénation. L'impression bien plutôt de tanguer d'un bord à l'autre de cette contradiction. Il me conduisait de la maison à l'école sur son vélo, passeur entre deux rives, sous la pluie et le soleil, peut-être sa plus grande fierté, ou même la justification de son existence, que j'appartienne au monde qu'il avait dédaigné.
L'écriture me vient de la vie. Je ne conçois pas que de faire une œuvre comme ça, de pur imaginaire, où on invente, c'est quelque chose qui me paraît complètement fou et faux. J'ai l'impression que l'écriture, c'est devenu d'avoir à témoigner de quelque chose. Et comment témoigner d'autre chose que de la réalité ? Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu. C'est un travail, l'écriture. C'est un gros travail.
En même temps, c'est une grosse part de hasard, vous semblez dire.
Oui, il y a une grande part de hasard. Moi, vous savez, j'ai pas l'impression d'avoir mené réellement ma vie. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu de la chance, oui, une forme de chance.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
Trente ans plus tôt, un autre drame endeuillait la famille. C'est peut-être l'origine lointaine du sentiment de jalousie qui a longtemps fasciné Annie Ernaux jusqu'à l'occupation. Découvrons cet autre dimanche qui a bouleversé son enfance. C'est l'été de ses 10 ans. La fillette surprend une conversation entre sa mère et une cliente de l'épicerie. Elle découvre un lourd secret. Avant sa naissance, ses parents avaient eu une première fille, Ginette, morte de maladie en 1938. À l'âge de 6 ans. Voici un extrait de la lettre posthume qu'Annie Ernaux adresse à sa sœur dans un court texte intitulé « L'autre fille », publié aux éditions Nil en 2011.
Depuis un moment indéterminé, ma mère est en grande conversation avec une jeune femme du Havre qui passe les vacances avec sa petite fille de 4 ans chez ses beaux-parents. Sans doute ma mère est-elle sortie du magasin qui ne ferme jamais à cette époque pour continuer de bavarder avec la cliente. Je joue près d'elle, avec la petite fille. Elle s'appelle Mireille, à courir et nous attraper. Je ne sais pas comment j'ai été alertée. Peut-être la voix de ma mère plus basse. D'un seul coup, je me suis mise à l'écouter, comme si je ne respirais plus. Elle raconte qu'ils ont eu une autre fille que moi et qu'elle est morte de la diphtérie à 6 ans, avant la guerre. Elle décrit les pots dans la gorge, l'étouffement. Elle dit... Elle est morte comme une petite sainte. Elle rapporte les paroles que tu lui as dites avant de mourir. « Je vais aller voir la Sainte Vierge et le bon Jésus. » Elle dit « Mon mari était fou quand il t'a trouvée morte en rentrant de son travail aux raffineries de Port-Jérôme. » Elle dit « C'est pas pareil de perdre son compagnon. » Elle dit « De moi, elle ne sait rien, on n'a pas voulu l'attrister. » À la fin, elle dit « De toi, elle était plus gentille que celle-là. Celle-là, c'est moi. Gentille. Il me semble que je savais déjà que ce mot-là ne pouvait m'être appliqué d'après les qualificatifs que je recevais quotidiennement de la part de mes parents au gré de mes comportements. Intrépide, coquette, sale, goulue, mademoiselle, je sais tout, déplaisante, tu as le diable au corps. Mais leurs reproches glissaient sur moi dans la certitude d'être aimée que prouvaient leurs soucis constants de ma petite personne et leurs cadeaux. Fille unique, gâtée parce qu'unique, toujours première de classe sans effort, je me sentais en somme le droit d'être ce que j'étais. 60 ans après, je n'en finis pas de buter sur ce mot et d'essayer d'en démêler les significations par rapport à toi, à eux, alors que son sens a été aussitôt fulgurant qu'il a changé ma place en une seconde.
entre eux et moi, maintenant, il y a toi, invisible, adoré. Je suis écartée, poussée, pour te faire de la place, repoussée dans l'ombre, tandis que tu planes tout en haut dans la lumière éternelle. Comparé, moi, l'incomparable, l'enfant unique. La réalité est affaire de mots, système d'exclusion, plus, moins, où et, avant, après, être ou ne pas être, la vie ou la mort. Entre ma mère et moi, deux mots. Je les lui ai fait payer. J'ai écrit contre elle, pour elle, à sa place d'ouvrière fière et humiliée. Plus gentille, je me demande si elle ne m'a pas donné le droit ou même l'injonction de ne pas l'être gentille. Ce dimanche, je n'apprends pas ma noirceur. Elle devient mon être. Le jour du récit est le jour du jugement. Rien de ce qui se passe dans l'enfance n'a de nom. Je ne sais pas ce que je ressentais, mais je n'étais pas triste. Quelque chose comme floué. Mais ce mot, lié à ma lecture de Beauvoir bien des années plus tard, me paraît irréel, sans poids, inapte à se poser sur mon être d'enfant. Après avoir cherché longuement, le mot qui me vient comme le plus juste, irréfutable, c'est « dupe ». J'étais dupe, dans le sens populaire. Mortifiée. J'avais vécu dans l'illusion. Je n'étais pas unique. Il y en avait une autre, surgie du néant. Tout l'amour que je croyais recevoir était donc faux. Il a bien fallu que je me débrouille avec cette mystérieuse incohérence. Toi, la bonne fille, la petite sainte, tu n'as pas été sauvée. Moi, le démon, je suis vivante. Plus que vivante, miraculée. Il fallait donc que tu meures à 6 ans pour que je vienne au monde et que je sois sauvée. Orgueil et culpabilité d'avoir été dans un dessein illisible choisi pour vivre. Mais choisi pour faire quoi? À 20 ans, après être descendu dans l'enfer de la boulimie et du sang mensuel tari, une réponse est venue pour écrire. Dans ma chambre, chez les parents, j'ai affiché cette phrase de Claudel, soigneusement recopiée sur une grande feuille, au bord brûlé avec un briquet, comme un pacte satanique. Oui, je crois que je ne suis pas venue au monde pour rien, et qu'il y avait en moi quelque chose dont le monde ne pouvait se passer. Je n'écris pas parce que tu es morte. Tu es morte pour que j'écrive. Ça fait une grande différence.
Quand j'étais adolescente, je me suis intéressée au jazz.
Annie Ernaux.
J'avais une prédilection pour Sidney Bechet, qui était, ou Bechet, qui, on ne disait pas Bechet à l'époque, hein, on disait Bechet. Un morceau qui s'appelait, qui s'appelle « Si tu vois ma mère ». Voilà. Et d'ailleurs, quand je l'entends, c'est encore quelque chose qui me donne des frissons.
En conclusion, évoquons ce texte que vous connaissez par cœur, Dominique Blanc, pour l'avoir lu si souvent, amoureusement, sur scène. Il s'agit de ce récit intense, « Les années », publié en 2008. Salué par de nombreux prix en France, le livre a reçu cet été en Italie le prix Strega Europeo, équivalent du Goncourt français. Mêlant mémoire intime et mémoire collective, Annie Ernaux ouvre un chemin d'écriture singulier, comme un singulier pluriel en quête d'un langage inconnu, pour dire la complexité de l'existence. Voici la dernière page de ce livre bouleversant où la tâche de l'écrivain reste entière, sauver ce qui peut l'être de l'oubli et du néant.
Le petit bal de Bazoches-sur-Oëne avec les auto-tamponneuses.
La chambre d'hôtel rue Beauvoisine à Rouen, non loin de la librairie Le Pouzé où Kayat avait tourné une scène de Mourir d'aimer.
La tireuse de vin au supermarché Carrefour de la rue du Parmelan, Annecy.
Je me suis appuyé à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains.
Le manège du parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains.
La toute jeune femme en manteau rouge qui accompagnait l'homme titubant sur le trottoir qu'elle était allée chercher au café Le Duguay-Clin en hiver à La Roche-Posay.
Le film des gens sans importance.
L'affiche à demi déchirée 3615 Oula au bas de la côte de Fleury-sur-Andelle.
Un bar et un jukebox qui jouaient Apache à Telly Hall Corner, Finchley, Londres.
Une maison au fond du jardin, 35 avenue Edmond Rostand, à Villiers-le-Bel.
Le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre.
L'homme en pyjama et chaussons tous les après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise, qui pleurait en demandant aux visiteurs d'appeler son fils, en tendant un bout de papier sale où était écrit un numéro de téléphone.
La femme de la photo du massacre de Hocine, Algérie, qui ressemblait à une Pietà.
L'éblouissant soleil sur les murs de Saint-Michel depuis l'ombre de Fondamenta Nuove.
Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Jean-Richard Dufour. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Léla Kourousselikois, Pirine Malinge et Claire Tesser. Un grand merci à vous, Dominique Blanc.
Merci à vous.
Vous êtes actuellement à l'affiche du film de Katel Kieveré, Réparer les vivants, une adaptation du très beau roman de Maïlys de Kerangal. On vous trouvera sur scène le printemps prochain dans l'adaptation d'un autre grand roman au féminin, Le Testament de Marie, de l'écrivain irlandais Colm Tobin, dans une mise en scène de Deborah Warner au Théâtre de l'Odéon, en partenariat avec la Comédie-Française. Bonne soirée et à la semaine prochaine.